Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Le Bonheur en question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Des questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur.
Peut-on être en colère mais toujours heureux ?
Merci Lou pour ta question. Tu prouves aussi, hein, comme dit Go la semaine dernière, que les enfants ont des questions très pertinentes. Donc voilà, Lou a 10 ans et elle me demande si on peut être en colère mais toujours heureux. Alors je suppose que tu poses aussi cette question parce que tu vis peut-être certains moments de colère et tu te demandes là, finalement est-ce que je suis quand même heureuse dans ces moments-là ou est-ce que je dois être heureuse en dehors de ces moments-là ? En fait, la colère, on va s'arrêter un instant dessus, ça fait partie des trois grandes émotions, on va dire, que je n'utilise pas le terme négative, hein, mais en tout cas désagréable, inconfortable, douloureuse. Je ne dis pas émotion négative parce que la colère aussi peut être positive, parce que la colère peut nous aider à un moment donné, justement, à exprimer quelque chose, c'est-à-dire à sortir quelque chose qu'on avait à l'intérieur. La colère, sur le moment, bien sûr, si quelqu'un est en pleine colère, très expressif, très extraverti, si on pose à ce moment-là la question « Est-ce que vous êtes heureuse ?» à cette personne, elle dira non. Si cette colère est rentrée, qu'on n'ose pas l'exprimer, qu'elle reste au fond de nous et qu'elle nous gêne de l'intérieur, si on pose la question à la personne, mais la personne va dire « Non, en effet, je ne suis pas heureuse. » C'est souvent après coup qu'on se dit « Mais finalement, ça m'a été utile, peut-être. » Donc, sur le moment de la colère, on n'est pas forcément heureux. La colère, c'est l'expression d'un besoin d'identité qui n'est pas nourri. Alors, un besoin d'identité, ça veut dire que nous avons besoin d'être différents des autres. Nous avons besoin d'être reconnus dans le fait que nous sommes une personne unique avec ses défauts et ses qualités, avec aussi ses lacunes, mais aussi tout son potentiel, toutes ses capacités, avec ses faiblesses, mais aussi avec ses forces. Et le fait, en effet, de demander cette reconnaissance, c'est demander aux autres de nous reconnaître, en fait, c'est-à-dire demander aux autres de prouver, en effet, par leur regard, que nous existons bien. Donc la colère, elle est souvent existentielle. On crie, on s'affirme, on tape du poing sur la table, on peut même être agressif pour dire à l'autre, mais j'existe. J'existe. Donc, sur le moment, on ne peut pas vraiment dire qu'on est heureux. Alors après, on peut considérer quoi ? On peut considérer que le bonheur, justement, c'est pas un état permanent, mais c'est une capacité. C'est un regard qu'on pose sur les choses. Alors oui, à un moment donné, on va passer par une période un peu difficile, on va vivre une colère, mais si au fond de nous, nous sommes heureux, eh bien, très rapidement, cette colère va être la source d'un questionnement. Mais finalement, qu'est-ce qui m'a mis en colère ? Est-ce que c'est moi qui suis en colère ou est-ce que c'est l'autre qui m'a mis en colère ? Et donc, ça veut dire que si on est une personne heureuse, on va traverser beaucoup plus vite ces moments de colère, ces moments difficiles. Et si on est une personne heureuse, hein, pour faire un clin d'œil à mon émission de radio de la toute première année et du livre qui en a résulté, eh bien peut-être parce que nous avons une forme de bonheur chronique. Alors bonheur chronique, je fais exprès d'utiliser le terme comme une maladie chronique finalement, c'est quelque chose qu'on a toujours en soi, qu'on doit toujours emmener finalement avec soi, et ça peut être aussi cette joie calme, une joie profonde, une joie continue, qui fait que même si nous traversons des périodes difficiles, parce que nous sommes une personne heureuse, alors on va pouvoir maîtriser ces émotions, comme la colère par exemple. J'utilise souvent cette métaphore du pilotage, on pilote nos émotions, comme un pilote d'avion va aussi piloter un un gros engin comme ça, un gros avion, ou un tout petit avion, peu importe. Et donc, ça veut dire qu'on peut décider, de, à un moment donné, de mettre le pilote automatique et puis de laisser l'électronique se débrouiller. Mais le vrai pilotage, eh bien, c'est quand on essaie d'anticiper des situations qui peuvent être potentiellement désagréables. Donc, ça veut dire qu'on a, comme dans un avion, des tas d'éléments qui nous donnent des signaux faibles, un tableau de bord en nous qui nous dit, ben voilà, attention, là, c'est en train de dériver, il y a un risque. Et donc, piloter ses émotions, c'est comme piloter un avion. Oui, en effet, on peut traverser des zones de turbulence, mais on va être capable quand même d'atterrir, on va être capable quand même de décoller, donc d'avoir la main, de maîtriser ses propres émotions. Ça veut dire que pour pouvoir être en colère, mais quand même heureux, il faut développer une forme d'intelligence qui est l'intelligence émotionnelle. Alors, elle est faite de connaissance de soi, je connais ma colère, d'automotivation, je suis capable de patienter et de faire des efforts personnels parce que je n'ai plus envie d'être en colère. Il y a la maîtrise des émotions, donc je peux calmer ma colère. Et puis cette colère, quelquefois, elle est due aux réactions, aux éléments qui viennent des autres, d'ailleurs. Donc c'est aussi de développer, en développant son empathie, en développant la maîtrise des relations humaines, et ça, Lou, ça vient avec le temps, on ne la maîtrise pas quand on a 10 ans. Et donc, ça veut dire que si je décide, si je le veux, si je décide d'être heureux plutôt que d'avoir raison à tout prix dans les situations de conflit, alors, comme Marshall Rosenberg l'a dit pour la communication non violente, alors, à l'écoute de mes propres besoins et à l'écoute des besoins de l'autre, je pourrais, à un moment donné, sentir une colère monter en moi, mais décider d'en faire un enseignement, décider de me poser la question de savoir ce qu'il me manque là, tout de suite, plutôt que d'accuser l'autre ou de me positionner en victime. Voilà comment on peut être en colère et toujours heureux.
Le bonheur est accessible à tout le monde.
Oui, Nadia, le bonheur, d'après moi, est bien accessible à tout le monde. Alors, bien sûr, sauf exception, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent avoir des lésions cérébrales, soit congénitales, soit à la suite d'accidents, soit à la suite, et ça c'est très intéressant, parce que les sciences, les neurosciences notamment, nous en apprennent énormément et quasi chaque jour, à la suite de chocs émotionnels, à la suite de maltraitance. En fait, notre cerveau, pour se développer, a besoin d'amour. Et nous avons un système qui s'appelle le cortex singulaire antérieur subgénual, je ne vous demande pas de le retenir par cœur, qui est en fait le siège de l'empathie. Et donc, ce siège de l'empathie, c'est une petite zone comme ça de notre cerveau, qu'on appelle le précuneus, et bien, sa taille va être aussi en fonction de notre bonheur. Donc, en effet, le bonheur est accessible à tout le monde, mais certains vont pouvoir y accéder plus facilement que d'autres. J'avais déjà parlé aussi du chromosome 5HTT, voilà, du gène plus exactement, dont les deux chromosomes pouvaient être plus ou moins courts et qui pouvaient avoir une incidence aussi sur notre capacité au bonheur. Je ne veux pas revenir dessus, mais revenir sur le fait que la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est plastique, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire qu'il peut évoluer, changer de taille, développer même de nouvelles fonctions, y compris dans des zones détruites du cerveau, parce que ou non développé. Donc ça, c'est vraiment important. Donc même si 50% de notre capacité au bonheur est génétique, la réalité, c'est que notre cerveau va être capable, en effet, qu'on a quand même 50% de marge de manœuvre, et notre cerveau va être capable de pouvoir développer la notion de bonheur, le fait de se sentir heureux à travers 50% de cette marge de manœuvre. Et donc, sur ces 50%, eh bien, 10% sont dus à des éléments extérieurs. Autrement dit, 40% de notre capacité à être heureux vient de notre propre réflexion, vient de l'intérieur, vient de notre volonté aussi à être heureux. Parce que nous possédons tous, sauf exception, une fois de plus pour des personnes malades ou handicapées, nous possédons tous cette capacité de résilience. Pendant longtemps, on a cru que c'était la capacité ou la qualité de certaines personnes, mais en effet, on a compris que c'était plutôt l'inverse. Nous sommes tous résilients, sauf certaines personnes qui ne peuvent pas l'être. Et donc, par exemple, ça a été découvert par le grand Boris Cyrulnik à la suite de l'ouverture de la Roumanie à la fin de la dictature Ceausescu, où nous avions repéré sur place des orphelins qui avaient été élevés, mais qui avaient été uniquement nourris et blanchis. On avait très peu pris soin d'eux, de leur santé, et surtout, on ne leur avait pas donné d'amour à ces pauvres enfants. Mais lorsque ces enfants ont été ensuite intégrés dans des familles accueillantes, aimantes, eh bien, ils ont rattrapé leur retard, alors que certains psychologues ou psychiatres les pensaient quasiment perdus pour retrouver un mode de fonctionnement ordinaire. Et cette résilience-là est hyper importante pour nous aussi, les adultes. Elle est donc naturelle. Ça veut dire que nous sommes conçus pour que les chocs de la vie, les difficultés, les traumatismes soient transformés en leçons de vie, soient transformés en apprentissage. Et donc, quelles que soient les situations que nous avions vécues ou que nous vivons sur le moment, eh bien, il faut bien retenir le fait que le bonheur est toujours accessible. Oui, à condition de s'en occuper. De s'en occuper, mais sans en être non plus obsédé. C'est-à-dire que le bonheur ne doit pas devenir une obsession. Si on recherche le bonheur, eh bien, on va avoir du mal à le retrouver si on ne fait que chercher le bonheur. Il faut donc prendre conscience de ces sources de bonheur, les favoriser. Il faut s'en inquiéter, je dirais, et s'inquiéter de son enfant intérieur. Nous avons tous été enfants avant d'être adultes, et ça veut dire que nous avons tous en nous cette énergie de l'enfance, cette capacité de l'enfance à transformer en jeu, à transformer en leçon, à transformer en plaisir, y compris les situations les plus difficiles. Donc, adultes, nous avons quitté l'enfance, mais nous n'avons pas abandonné notre enfant intérieur. Retrouvez-le, cet enfant intérieur sera toujours prêt à apprécier l'instant présent, à faire des projets, à accepter son passé sans y passer trop de temps. Et donc, on peut dire ainsi que le bonheur est accessible non seulement à tout le monde, mais il risque de ne pas être accessible à une personne qui ne souhaiterait pas être heureuse. Donc oui, nous connaissons autour de nous des personnes qui peuvent aussi se plaindre, se positionner en victime, finalement accepter avec résignation, avec fatalité, tous les soucis qui leur arrivent, qui développent une croyance aussi, comme quoi finalement ils ne seront jamais heureux. Donc c'est faux, s'ils ne veulent pas être heureux, ils ne le seront pas. Mais s'ils veulent être heureux, ils pourront trouver eux aussi des pistes de bonheur qui les mèneront à la sérénité, au calme, à l'apaisement d'une vie dans laquelle on va pouvoir aussi apprécier tous ces petits bonheurs qui nous entourent. Gandhi et le sucre. Une mère très inquiète rencontre le Mahatma Gandhi avec son fils. Voici ce qu'elle lui demande. « Mon fils est incontrôlable, je vous en prie. Dites-lui de ne plus manger de sucre, sa santé fragile en dépend. » Gandhi réfléchit pendant un instant, puis déclare. « Je veux revoir ce garçon dans 21 jours. » Surprise mais résignée, la femme le remercie et promet de revenir dans 3 semaines. Exactement 21 jours plus tard, elle est de retour avec son fils. Sur un ton amical mais déterminé, Gandhi dit au garçon « Ne mange plus de sucre, cela nuit à ta santé. » Étonnée, la mère de l'enfant questionne immédiatement Gandhi. « Mais pourquoi avez-vous attendu 3 semaines pour lui parler ? Vous auriez pu le faire lors de notre première visite. » Gandhi répond avec humilité. « Il y a 3 semaines, madame, je mangeais encore du sucre. » Cette histoire illustre aussi cette citation de Confucius. « L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner. Ensuite, il l'enseigne. » Je rajouterai pour ma part, lorsque vous donnez des conseils, assurez-vous de les appliquer avant, et j'ajouterai aussi, assurez-vous qu'ils soient sollicités. Il n'y a rien de pire qu'un conseil non sollicité. C'était Jean-Marie Marcos pour Le Bonheur en question. N'hésitez pas à me poser des questions sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux. Change the day, oh. Don't ask me why I choose to lie.